Radio Prague, les informations.
Atténuation des mesures de sécurité renforcées à cause du danger d'attaques terroristes à Prague. La Tchéquie est parmi 20 pays qui ont attiré le plus d'investissements étrangers directs. La société autrichienne Kapsch peut continuer les travaux d'installation des portails de péage électronique. Une grande coalition formée entre la social-démocratie et le Parti civique démocrate serait la solution la plus stable pour la Tchéquie, une opinion du chef des sociaux-démocrates Jiří Paroubek, qui sera reçue mercredi par le président Václav Klaus dans le cadre des consultations sur les issues à l'impasse post-électorale. À l'issue de la réunion du Conseil de sécurité de l'État, le premier ministre démissionnaire Mirek Topolánek a annoncé une atténuation des mesures de sécurité qui ont été renforcées il y a un mois en réaction aux informations des services secrets sur les préparatifs d'une attaque terroriste contre une synagogue à Prague. L'inspection du ministère de l'Intérieur a recommandé d'inculper le directeur de l'unité de lutte contre le crime organisé Jan Kubice et ses deux subordonnés d'abus de pouvoir et de manipulation illicite de données personnelles. L'affaire Kubice liée à la fuite d'informations d'un rapport secret présenté par Jan Kubice sur la prolifération du crime organisé dans l'appareil de l'État. En 2005, la République tchèque a occupé la 20e position à l'échelle mondiale des pays qui ont attiré les plus gros investissements étrangers directs. Selon l'agence Czech Invest, l'afflux d'investissements étrangers atteint près de 380 millions d'euros. La société autrichienne Kapsch peut continuer les travaux d'installation des portails de péage électronique pour les camions sur les autoroutes tchèques. Le tribunal de Brno a rejeté la plainte de la firme Autostrade qui a mis en doute le résultat de l'appel d'offres lancé par le ministère des Transports et remporté par l'Autrichien Kapsch. Une rétrospective de Rudolf Kremlička, peintre du style moderne classique, décédé en 1932, influencé par les impressionnistes français, auteur de portraits nus et paysages, a commencé ce mardi dans la maison à la cloche de pierre à Prague. Ce mardi matin, le thermomètre est descendu à moins 11 degrés dans le massif de la Šumava. Un ciel clair et des températures diurnes comprises entre 11 et 15 degrés sont prévues pour mercredi, jour de fête des Lukáš. C'était les informations par Jirka Gisublova.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
La Tchéquie veut héberger le Centre Galileo. Plus de détails au début de ce programme. Le poète Ivan Jiros, par qui le scandale arrive parfois, ami de Václav Havel, s'est vu décerner le prestigieux prix Jaroslav Seifert, une occasion pour nous de brosser son portrait. Nous vous présenterons également un nouveau livre de l'écrivain Ludwig Vasolik qui a récemment soufflé ses 80 bougies. À la fin, un jeune étudiant français vous racontera ses expériences qu'il a acquises dans la métropole morave, Brno. Galileo est un système de radionavigation par satellite développé par l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne. Un système de navigation dont l'un des centres de contrôle pourrait être installé en République tchèque. C'est en tout cas le souhait de Prague, l'hébergement de ce site étant une question de prestige, mais pas seulement, comme nous l'explique Alexis Rosenzweig.
Jeudi dernier, une rencontre a réuni au Luxembourg les ministres des Transports des pays membres de l'Union européenne. La République tchèque y était représentée par le vice-ministre Andrej Jašek. Parti à cette réunion avec dans l'idée d'aborder la question du système européen de navigation par satellite, celui-ci a dû se résoudre à ne pas en parler.
À la demande expresse de la ministre finlandaise des Transports qui présidait la réunion et qui a strictement interdit d'aborder cette problématique lors du déjeuner de travail, c'est ce qu'a indiqué Andrej Jašek le lendemain de la réunion. Selon les accords conclus précédemment, il pourrait y avoir deux, voire trois centres de contrôle répartis sur le continent européen, le siège du concessionnaire de Galileo étant installé à Toulouse, dans le sud de la France. L'un de ces centres de contrôle sera en Allemagne, à Oberpfaffenhofen, et la République tchèque espère toujours pouvoir héberger un autre centre sur son sol, mais d'autres pays sont sur les rangs. Andrej Jašek.
C'est une affaire de prestige et si l'hébergement de ce centre de contrôle pouvait coïncider avec la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne, cela pourrait être un point très positif.
Et la présidence tchèque du Conseil est prévue pour le 1er janvier 2009. Alors une question de prestige, bien sûr, mais pas seulement.
Je pense que cela peut aider la République tchèque à ouvrir un espace particulier dans le domaine des investissements à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui déjà, il y a ici un certain nombre d'entreprises qui sont à la pointe dans la fabrication de pièces détachées pour satellites.
Et rappelons que 4 satellites seront mis en orbite en 2008, une fois conclue la phase de préparation technique. Bien qu'incomplet, le système Galileo, qui doit affranchir l'Europe de sa dépendance des États-Unis en matière de navigation par satellite, pourra alors partiellement déjà fonctionner et devrait fonctionner normalement à partir de 2010.
C'est à Ivan Martin Jirous qu'a été décerné cette année le prix littéraire portant le nom de Jaroslav Seifert, l'unique lauréat tchèque du prix Nobel de littérature. Le poète connu en Tchéquie sous son surnom de Magor, Toké, Dingo, ne ressemble pas du tout à l'image qu'on se fait en général d'un représentant de la grande littérature, Václav Richter.
Bien qu'il ait étudié l'histoire de l'art, Ivan Martin Jirous ne s'est pas illustré dans cette discipline, mais s'intéressait beaucoup plus à la culture non officielle, l'underground. En 1971, il devient leader du groupe de rock, The Plastic People of the Universe, dont le répertoire corrosif et provocateur ne tardera pas à déclencher la colère du régime communiste. Pendant la triste période de la normalisation sous l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'armée soviétique, il travaille comme gardien et main-d'œuvre. Arrêté pour la première fois en 1973, il sera emprisonné encore 4 fois par la suite et passera au total 8 ans et demi en prison. Il est évident que ses œuvres littéraires ne peuvent paraître qu'en samizdat et à l'étranger. Son premier recueil de poésie, le chant matinal de Magor, est créé en 1975, suit le recueil Les chants de cygne de Magor, pour lequel il reçoit en 1985 le prix Tom Stoppard. Les poèmes de ce recueil, mariant l'humilité chrétienne à une expressivité agressive, ont été écrits dans la prison de Valdice et étaient sortis sous forme de billets clandestins. Les écrits d'Ivan Jirous ne commencent à paraître normalement qu'après la révolution de velours, à la chute du communisme en 1989. En 1998, il publie « La somme de Magor », couronné par la critique comme le meilleur livre de l'année. Tout récemment, il a fait paraître un volume de 500 pages, « Les lettres de Magor » qui réunissent ses lettres écrites en prison aux femmes de sa vie, ce livre qu'on compare parfois aux lettres à Olga d'un autre prisonnier politique, Václav Havel, sera particulièrement apprécié par le jury qui lui accordera le prix Jaroslav Seifert. Aujourd'hui donc, Ivan Martin Jirous est lauréat de ce prix qui a déjà été décerné entre autres à Ludwig Vaculík, Milan Kundera, Věra Linhartová, Viktor Fischl et Josef Škvorecký. Il se trouve donc en bonne compagnie.
Ce prix est doté d'une certaine somme, ce qui est certainement agréable. Mais le plus important est qu'en recevant ce prix, je me suis retrouvé en compagnie de gens, d'autres lauréats du prix, que j'estime et dont certains sont mes amis. Ce qu'il y a de mieux dans tout cela, c'est donc, je crois, le fait d'avoir pu me joindre officiellement à ces gens-là.
Cela ne veut pourtant pas dire qu'Ivan Jirous est aujourd'hui un poète rangé. Il ne cache pas sa répugnance pour le régime actuel qu'il qualifie de dictature d'un néocapitalisme pervers. Il continue à provoquer les bien-pensants. Il a des démêlés avec la police. Il reste toujours en marche, refuse de se joindre à la culture officielle et adapte toute sa vie à sa marginalité. « Je n'ai pas de grands besoins, dit-il. Je n'ai pas de voiture, parce que je ne supporte pas les chauffeurs bourrés et parce que je me connais. Je n'ai pas de télévision, parce que je ne la supporte pas. » Publié officiellement, décoré de prix littéraires, Ivan Martin Jirous n'en reste pas moins ce Magor qui a été le cauchemar des autorités communistes. « Na horách studenky, na horách studenky. »
su moje šenkerki, oni mnie naleju, oni mnie naleju, a plat mi ne beru, a plat.
L'écrivain Ludwig Vasolik, qui a récemment soufflé ses 80 bougies, aime chanter, et il chante fort bien. Son dernier livre, qui vient de paraître et qui est intitulé « Polepšené piesničky, les chansons corrigées », traduit merveilleusement cet amour pour la chanson folklorique notamment, mais pas seulement. Vasolik a dit à l'occasion de son lancement.
La knižka je o tom, jak když si člověk zpívá.
Le but du livre est de montrer qu'en chantant, on voit le monde se transformer. Moi-même, je ne me prends pas pour un chanteur, je ne chante pas dans une chorale, je ne gagne pas ma vie avec le chant, mais j'ai chanté durant toute ma vie. Lorsqu'on chante, on s'enrichit d'une nouvelle capacité, d'une nouvelle possibilité, d'une troisième main, d'un nouveau sens, voire d'une nouvelle zone érogène.
Réflexions, récits autobiographiques, souvenirs, photographies, notes, textes de chansons, un CD. Voilà tout ce qui est réuni dans les chansons corrigées, un livre hors du commun et hors genre. À côté des chansons folkloriques classiques, on y trouve de nouvelles chansons liées à telle ou telle situation, politique le plus souvent, ainsi que celles qui existent déjà et auxquelles l'écrivain a ajouté de nouveaux couplets et qu'il a ainsi corrigés. Dans l'ouvrage, nous pouvons lire « Le chant est une manifestation corporelle de l'état d'âme et vice-versa. Pour moi, c'est un phénomène somatique, comme la température du corps, la sueur, les larmes. Chez nous et dans mes alentours, on chantait, on sifflait, on bredonnait. Grand, petit, tout le monde à tout moment. » Ludwig Vasolik a rappelé certains moments forts de cette longue histoire d'amour, avec humour bien sûr, lors de la présentation de son livre à Prague.
Zpěv byl i náš signalizační prostředek. Karel Rožnoviák oznamoval.
Le chant était pour nous aussi un moyen qui nous liait au monde extérieur, un moyen d'instruction donc. En 1936, les Italiens ont attaqué Asbèche. À l'école, tous les jours, on suivait sur la carte l'avancée des Italiens. Quand on jouait, en menant les chèvres au pâturage, personne ne voulait incarner un Italien. Lorsque les Italiens ont subi les premières pertes, j'ai composé pour l'occasion une chanson.
Glossateur fin et critique du monde et des événements, l'écrivain Ludwig Vasolik a à son compte 17 ouvrages qui sont parus à partir du début des années 60, dont on mentionnera La Hache ou La Clé des songes. On rappellera que dans les années 70 et 80, il était sur la liste des auteurs interdits par le régime et qu'il dirigeait en samizdat les éditions Petlice, sous les verrous. Écrivain, Ludwig Vasolik se veut aussi être un homme qui chante. Il l'est effectivement.
Prešpurkem kraj Dunaja, pod Prešpurkem kraj Dunaja, je kasarnja, malovana. Je kasarnja,
Et voici maintenant la suite du récit d'Adeline Royer, étudiant français et actuellement notre stagiaire, concernant son récent séjour à Brno, une ville à laquelle il avoue, en dépit des idées préconçues de beaucoup de ses compatriotes, voire d'ignorance, un certain charme et beaucoup de dynamisme.
C'est donc dans cette ville très dynamique que j'ai suivi un mois de cours intensifs de tchèque dans le cadre de l'école d'été de l'université Masaryk, en compagnie de plus de 150 tchécophiles de tous les âges, allemands, autrichiens ou polonais qui venaient en voisin, mais aussi américains, estoniens, macédoniens, portugais et français. Les cours se déroulaient tous les matins de 9h à 13h15, sauf le vendredi, le jour de promenade. Nous nous sommes rendus à Prague, dans le massif des Beskides, et à Lendice Valtice, et le dimanche, jour de repos. Autant dire que, sauf à faire preuve d'une mauvaise volonté hors du commun, nous étions forcés de progresser. L'après-midi, des films en tchèque et des conférences étaient proposées, mais les débutants ne pouvaient guère en profiter. La résidence universitaire dans laquelle nous logions avait vraiment des allures de tour de Babel, et pas seulement du fait de ses 12 étages. Dans cet improbable microcosme cosmopolite, l'allemand, l'anglais, le tchèque, le français se mêlaient au point de former une étrange langue hybride. Nous nous sentions citoyens du monde tout en conservant nos manies nationales. Pour nous autres venus de l'Hexagone, il a d'abord fallu s'habituer à l'inénarrable gastronomie tchèque qui chaque jour figurait au menu du restaurant universitaire. La rencontre des Français avec les knedlicki et autres smagenissir, alias fromage pané, n'est pas une mince affaire, mais à en juger par leur succès croissant, l'habitude, comme l'appétit, vient en mangeant. Une fois cet obstacle surmonté, nous avons pu profiter de la trépidante vie étudiante et culturelle de la capitale morave. Le dernier jour, quand vint le temps des adieux, ce n'est donc pas sans une pointe de nostalgie que nous avons entonné tous en chœur les chansons traditionnelles bohémiennes, moraves ou slovaques que nous avions apprises, accompagnées de musiciens folkloriques et de bouteilles de vin morave.
Et c'est donc sur ce récit de notre stagiaire Adeline Royer que se terminent les faits et événements en République tchèque. Notre programme en français se poursuit.
La République tchèque au quotidien. Alexis Rosenzweig.
Dans la capitale tchèque, la semaine dernière a non seulement été marquée par l'anniversaire de Václav Havel, mais aussi par le Forum 2000, une conférence internationale qu'il a initiée lui-même il y a déjà 10 ans. Parmi les invités cette année, le Polonais Bronislav Geremek et le Biélorusse Aleksandr Milinkiewicz, survivant du ghetto de Varsovie, cofondateur de Solidarnosc, puis ministre polonais des Affaires étrangères, Bronislav Geremek est aujourd'hui député du Parlement européen. Opposant et candidat aux dernières élections présidentielles remportées par Loukachenko avec plus de 82% des voix, Aleksandr Milinkiewicz continue son combat contre le régime dictatorial en place à Minsk. C'est à lui que j'ai d'abord demandé de décrire la situation dans son pays, 6 mois après ce scrutin, comparé à une farce par le Conseil de l'Europe.
La situation est bien sûr différente qu'avant les élections. Il y a les changements auxquels, avant tout, il y a moins de la peur. Les gens sont plus actifs. Les gens supporte l'opposition qui est remarquable. Avant, c'était toujours les problèmes. On a posé toujours la question, qui si ce n'est pas lui? On a pensé qu'il y a un seul politicien. Aujourd'hui, la situation a changé.
Alors, est-ce que l'opposition biélorusse est unie aujourd'hui?
Un peu de problèmes. Il y a des problèmes. Parce que nous sommes partagés un peu sur la question de l'indépendance. Il y a les forces comme communistes, comme une partie des social-démocrates qui sont pour l'union avec la Russie, mais l'union pas très forte. Et la majorité des partis est pour l'indépendance. En Biélorussie, il n'y a pas des politiciens qui sont contre russes. Quelqu'un qui est russophobe, il ne peut pas gagner les élections chez nous. Mais en même temps, la majorité des Biélorusses veulent vivre dans sa propre maison. Et la lutte parmi les partis en ce point existe. En plus, la Russie essaye de changer cette coalition vers soi-même. Aujourd'hui, c'est la coalition pro-européenne, pro-l'indépendance. Et bien sûr, à Moscou, on veut bien changer un peu l'orientation. Ça nous empêche, mais pour les élections locales, on va ensemble.
Vous êtes aujourd'hui à Prague. Les pays de la région, que sont surtout la Pologne et les pays baltes, aussi un peu la République tchèque, vous soutiennent.
Vous avez parlé d'un problème, cela dit, d'un problème à Bruxelles, un manque d'unité dans la position de l'Union européenne, dans un soutien actif à l'opposition démocratique biélorusse.
Le soutien moral est énorme. Il est très important pour nous. Mais on doit trouver les moyens, les schémas, comment travailler avec les ONG qui ne sont pas enregistrées, avec les partis qui sont clandestines. Ça existe chez nous.
Alors, quelle attitude attendez-vous de Bruxelles?
Bien sûr, il faut trouver quelles sont les méthodes d'une aide réelle. Je connais comment on peut le faire, mais il y a les règles très strictes qui empêchent ça.
Lesquelles?
Mais ce sont les règles étaient introduits pour les pays qui sont en voie de développement démocratique. Et nous sommes la dictature, alors qu'il faut travailler différemment.
Monsieur Guérémec, on a parlé de l'attitude que devrait adopter l'Union européenne et surtout du manque d'unité, c'est-à-dire d'un côté une aide des pays qui faisaient partie du bloc soviétique, que sont les pays baltes, la Pologne, un petit peu aussi la République tchèque, mais un manque d'unité dans la position que Bruxelles adopte face à la dictature biélorusse.
D'abord, je voudrais dire que l'attitude dans l'Union européenne progresse, change dans la bonne direction. Parce que je me rappelle encore, il y a 2 ans, 2 ans et demi, et les années précédentes, la Biélorussie sembla appartenir pour toujours, sinon à l'Union soviétique, à la Fédération russe qui héritait l'ambition de domination russe. Et pour la paix européenne, ce rapport de soumission de la Biélorussie à l'égard de la Russie semble être un bon facteur. Ça a changé. Et j'ai le sentiment que dans toutes les institutions européennes, je pense en particulier à la Commission européenne, au Parlement européen et peu à peu aussi le Conseil européen, on se rend compte de ce que la Biélorussie est une dictature et que deuxièmement, la Biélorussie a une aspiration européenne. Le problème, c'est comment ensuite, après qui sont des déclarations rhétoriques, de principes et sans réalisation pratique, donc comment? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de ces institutions?
Et pour Bronislav Geremek, il y a 3 domaines importants. La possibilité donnée aux Biélorusses de se rendre dans l'Union européenne en diminuant le prix des visas, un visa Schengen à 60 euros étant équivalent à un salaire mensuel en Biélorussie. Deuxièmement, donner des bourses par centaines, voire par milliers aux étudiants biélorusses, comme le font les Pays-Baltes, la Pologne et dans une moindre mesure la République tchèque. Et troisièmement, le problème crucial de l'information.
L'ex-dissident que je suis, je peux dire de ma propre expérience, de notre expérience, polonais, tchèque et autres, que l'appui principal pour notre lutte venait des possibilités qui nous étaient offertes de communiquer, d'avoir l'accès aux informations, d'avoir une certaine technique de diffusion des informations.
Pour nous, le plus important, c'est détruire l'isolation informatique, de l'information. Il n'y a pas de la radio pour nous depuis 10 ans. Il n'y a pas de télévision. Les journaux sont presque liquidés. Alors, il nous reste l'Internet, il nous reste les petits journaux que nous éditons dans tous les pays, et c'est toujours pour les petites villes. Très efficace. Et on va 6 gens de porte à la porte pendant les élections. Comme maintenant, les élections qui se commencent, ce sont les élections locales.
Et puis, pourquoi pas penser à une radio biélorussienne. Pas une radio allemande, anglaise ou française, mais une radio biélorussienne sur le sol européen, qui en biélorussien pourrait communiquer et informer les citoyens de la Biélorussie quelle est la situation dans le monde. Pourquoi pas penser aussi à une certaine couverture de la télévision dans les pays limitrophes de la Biélorussie donnant cette information. Donc, pour cela, il faudrait que ce soit les décisions de l'Union européenne entière. Et ces décisions pourraient être réalisées en premier lieu par les pays limitrophes. Aucun danger pour la stabilité européenne, au contraire. Il n'y a pas de stabilité européenne quand il y a un pays de dictature. La seule dictature existante sur le sol européen, c'est la Biélorussie. Il faut aider le peuple biélorussien. Je crois que nous devrons être les premiers à organiser une certaine pression sur les institutions européennes, premièrement. Mais deuxièmement, que nous devrons, par notre exemple pratique, faire cette pression. C'est-à-dire faire ce que nous pouvons. Nous, les Tchèques, Hongrois, Lituaniens, Estoniens et Polonais. Organiser cette information, donner les possibilités d'éducation pour les jeunes biélorussiens. La Pologne le fait, la Pologne donne des centaines de bourses.
La République tchèque a commencé également.
La République tchèque a commencé, je pense que donc nous faisons cela dans l'esprit européen.
Voilà, c'était le député polonais du Parlement européen Bronislav Geremek et l'opposant biélorusse Aleksandr Milinkiewicz au micro de Radio Prague. Aleksandr Milinkiewicz qui fait partie, avec Ingrid Betancourt, des principaux favoris du prochain prix Sakharov de la liberté de pensée, un prix qui sera remis à la fin du mois par le Parlement européen. C'est la fin de cette émission, c'est également la fin des programmes en français sur Radio Prague. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à très bientôt sur nos antennes.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600.